Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Je remercie aussi la librairie Mola d'accueillir les conférences de la Société de philosophie, évidemment. Je remercie Sophie Guérard de la Tour pour sa présence. Alors, Sophie Guérard de la Tour vient nous présenter son dernier ouvrage, hein, Le multiculturalisme à l'épreuve du féminisme. Elle est professeure de philosophie à l'École normale supérieure de Lyon. Ses travaux portent sur la citoyenneté démocratique, les théories de la justice et les politiques du multiculturalisme, mais aussi sur la question républicaine et le républicanisme. Depuis plusieurs années, elle interroge la manière dont les sociétés libérales peuvent à la fois reconnaître la diversité culturelle et garantir l'égalité entre les individus. Son travail se caractérise par un double souci. D'une part, penser les conditions d'une démocratie réellement inclusive, et d'autre part, examiner de façon précise la manière dont les institutions produisent ou au contraire atténuent des formes de marginalisation. Son dernier ouvrage, Le multiculturalisme à l'épreuve du féminisme, prolonge ses réflexions en abordant un problème parmi les plus délicats et les plus débattus dans la philosophie politique contemporaine. Comment défendre à la fois les droits des femmes et la reconnaissance des minorités culturelles? Et l'un des grands mérites de ce livre est précisément de montrer à quel point cette question, souvent caricaturée dans le débat public, est en réalité extrêmement complexe, théoriquement exigeant et politiquement décisif. L'un des apports essentiels du livre est de réexaminer avec rigueur et sans complaisance les différentes manières dont un féminisme attentif à la diversité culturelle peut être pensé. À l'heure où les débats publics en France restent souvent polarisés ou simplifiés, l'ouvrage offre un cadre théorique précieux pour penser les relations entre justice, culture et égalité de genre, sans sacrifier l'un des enjeux au profit d'un autre. Sophie, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui t'a amené au fond à écrire cet ouvrage ?
Tout d'abord, je tiens à remercier la librairie Mola très chaleureusement pour cette invitation et te remercier, Claire, pour cette présentation du livre et cette occasion d'en discuter. Pour rappeler l'origine de ce projet, en fait, comme tu l'as dit, mes premiers travaux portaient sur les théories du multiculturalisme, qui sont des théories en philosophie politique contemporaine qui ont beaucoup été élaborées dans le contexte canadien, où la question de la diversité culturelle est omniprésente, et qui cherchent à défendre sur le plan philosophique la légitimité d'un modèle d'intégration non-assimilationniste, c'est-à-dire qui rompt avec l'idée d'une citoyenneté unitaire dans laquelle l'intégration politique passe aussi par une intégration culturelle, le partage d'une culture commune, une culture nationale relativement homogène. Et donc les théoriciens du multiculturalisme ont cherché à justifier sur le plan des principes philosophiques des pratiques politiques qui avaient commencé à émerger dans certaines démocraties libérales à partir des années 70, et notamment au Canada, mais aussi en Australie et en Suède, ou en Grande-Bretagne, et aussi d'une certaine façon aux États-Unis. Donc dans certains pays, dans les années 70, voilà, un modèle non-assimilationniste avait commencé à être défendu avec cette idée d'une tolérance culturelle plus poussée à l'égard des minorités ethniques. Et donc le multiculturalisme renvoie ce type de groupes, minorités de type ethnique, c'est-à-dire des groupes type des minorités nationales, comme les Québécois au Canada, ou alors des peuples autochtones, comme il y en a aussi bien en Australie qu'au Canada ou aux États-Unis, et enfin des groupes issus de l'immigration. Donc c'est à l'égard de ce type de diversité ethno-culturelle que ces théories se sont développées et ont cherché à défendre, du point de vue de la philosophie politique, l'idée d'une tolérance multiculturelle. Alors, comment j'en suis venue à partir de là aux enjeux féministes ? C'est tout simplement parce qu'en travaillant sur ces théories-là, au départ, j'essayais d'en montrer le bien fondé démocratique, le fait qu'elles étaient justifiées par des principes politiques qui sont au cœur du pacte des démocraties libérales, à savoir la reconnaissance de la liberté et de l'égalité de chaque citoyen. Et j'étais régulièrement confrontée à des objections me disant qu'en tant que femme, il était surprenant que je défende la tolérance multiculturelle, laquelle était d'emblée envisagée comme avec suspicion. Et donc, et c'est une objection, voire une accusation parfois assez agressive qui m'a souvent été faite qui, évidemment, m'a amenée à m'intéresser dans les débats de philosophie politique à cette question-là et à voir que cette critique, elle existait, mais qu'au départ, c'était une critique parmi d'autres. Hein. Donc, les théories du multiculturalisme, elles se développent dans la deuxième moitié des années 90 et cette critique, elle commence à être formulée à la fin des années 90 et c'est une critique parmi d'autres avec celle qui accuse ces théories du multiculturalisme de menacer l'égalité ou de menacer la liberté. Mais la question des femmes était une critique parmi d'autres Et il se trouve qu'elle a pris une ampleur particulière, notamment à partir du tournant des années 2000, avec sur la scène internationale et puis ensuite dans les démocraties libérales européennes, le cycle des attentats qui s'est ouvert et une évolution, des crispations identitaires, des discours de plus en plus hostiles à l'immigration, hostiles à l'islam. Et la critique féministe a pris une ampleur sans précédent, au point de cristalliser un phénomène qu'une sociologue qui se nomme Sarah Faris a nommé le fémonationalisme, c'est-à-dire le fait que l'argument féministe a de plus en plus été récupéré pour disqualifier en fait les populations perçues comme étrangères, perçues comme non assimilées et censément plus patriarcales, plus sexistes que les membres de la majorité. Et donc c'est face à cette évolution aussi, et donc ce fémonationalisme et cette évolution des débats publics a évidemment une répercussion en théorie politique. La question de l'articulation entre la tolérance multiculturelle d'un côté et le droit des femmes de l'autre a été reprise, retravaillée par les théoriciens et les théoriciennes, et notamment par certaines dont j'explore les travaux dans ce livre, qui ont cherché à montrer qu'il fallait résister en fait à cette dérive fémonationaliste sans céder à une forme de paralysie morale que la tolérance multiculturelle peut encourager, c'est-à-dire le fait qu'on aurait peur de critiquer certaines traditions sexistes ou certaines normes patriarcales dans la culture de groupes minoritaires parce qu'on aurait peur d'être taxé de racisme ou d'ethnocentrisme. Donc cette paralysie morale, il faut y résister, mais sans tomber dans le piège fémonationaliste, c'est-à-dire d'un piège où dès que l'on critique les traditions des minoritaires, on les disqualifie et on les exclut, on participe à ce discours, à cette nouvelle xénophobie. Donc voilà, les féministes multiculturelles que j'explore dont j'explore les travaux dans ce livre cherchent justement à opérer une synthèse entre deux exigences d'égalité démocratique, l'une qui tient à l'égalité entre hommes et femmes, le fait que les femmes ne doivent pas être désavantagées par leur sexe, ne doivent pas doivent pouvoir mener les mêmes types de vie aussi épanouissantes et aussi librement choisies que les hommes. C'est la définition qu'en donne Suzanne Malarokine du féminisme. Et de l'autre côté, une exigence d'égalité démocratique tournée vers les groupes ethnoculturels. Donc, montrer que ces deux exigences d'égalité démocratique, loin d'être... même s'il existe des tensions entre ces deux exigences démocratiques, elles ne sont pas contradictoires et elles peuvent au contraire être synthétisées.
Alors, en effet, tu pointes une question extrêmement vivace aujourd'hui hein, dans le débat public, c'est-à-dire au fond la façon dont le féminisme peut être aujourd'hui mobilisé pour défendre des positions intolérantes à l'égard des groupes minoritaires. Et je donnerai pas d'exemple parce que je pense que tout le monde ici le voit et on comprend l'enjeu. En face de une tolérance qui pourrait aussi se renverser en acceptation de l'oppression des femmes au sein de ces groupes minoritaires. Et tu essayes justement, à mon sens, sans compromis et sans te détourner de la difficulté, de l'affronter réellement sur le plan philosophique. Alors, est-ce que, au fond, tu pourrais expliquer peut-être ce qu'est le multiculturalisme? Pour quelles raisons, alors dont on a tous, toutes et tous, un peu entendu parler autour des accommodements raisonnables dans les années 80-90 au Canada, mais ce qu'est le multiculturalisme, dans quel débat il s'inscrit sur le plan international et aussi pourquoi il est si mal accueilli en France, parce que bon, j'ai l'impression qu'il est souvent assimilé à ce qu'on appelle le communautarisme de façon extrêmement péjorative dans le débat français, en tout cas dans le débat public français. Alors justement, voilà, comment tu te situes ce cadre de discussion sur le plan international et la façon dont cette discussion internationale vient aussi éclairer les raisons pour lesquelles, ou pas, les raisons pour lesquelles ces questions sont souvent mal accueillies en France.
Alors, le multiculturalisme en tant que projet philosophique, en France, il est souvent associé aux États-Unis, alors qu'en fait, c'est avant tout un projet qui a été porté par des penseurs canadiens. Hein, les pères fondateurs du multiculturalisme philosophique sont notamment Charles Taylor, James Tully ou Will Kimlicka, qui sont donc des philosophes anglophones canadiens. Charles Taylor étant spécialiste à l'origine de Hegel, James Tully de John Locke, Will Kimlicka de John Rawls, mais ils ont tous, à un moment de leur parcours, affronté cette question de défendre une forme d'inclusion, de modèle d'intégration dans leur propre pays, le Canada, qui soit davantage tolérant et ouvert, ou qui reconnaisse davantage soit le nationalisme québécois pour Taylor et Kimika, soit les peuples autochtones pour James Tully. Donc ce sont ces penseurs-là qui ont porté ce projet à l'origine et qui l'ont fait en essayant de montrer que le multiculturalisme était exigé par les principes libéraux et démocratiques. C'est très clair, notamment chez Will Kimika, qui s'inspire du philosophe John Rawls, qui montre que le respect de la culture d'appartenance des individus est quelque chose qui est exigé par le fait qu'il y a un lien entre appartenance culturelle et identité morale, et que les individus ont besoin de leur culture d'origine. Alors, ce qu'il appelle la culture d'origine, c'est la culture de la socialisation primaire, la langue maternelle notamment. Et cette culture-là, elle est indispensable pour notamment exercer son autonomie. Donc si on est attaché au principe de liberté dans une démocratie libérale, on est attaché à ce principe, eh bien il faut accepter que le contexte culturel dans lequel on agit est une des conditions d'exercice de son autonomie individuelle. Même chose pour le principe d'égalité. Une démocratie est engagée dans le fait de manifester un égal respect à l'égard de chacun de ses citoyens, et cela suppose justement que l'on ne méprise pas, que l'on ne disqualifie pas publiquement un mode de vie qui serait celui d'un groupe minoritaire de ses citoyens. Donc, pour ces deux raisons, la liberté d'un côté ou l'égalité de l'autre, il est requis, d'après les principes démocratiques et libéraux, de protéger les minorités culturelles quand leur culture, justement, les expose à des formes de discrimination ou d'inégalité de traitement. Donc, les accommodements raisonnables qui sont justement reconnus au Canada constitutionnellement, c'était le seul pays qui a fait du multiculturalisme un principe constitutionnel, c'est dans l'article 27 de la Charte canadienne des droits et libertés. Ce principe des accommodements raisonnables consiste à dire que lorsque une pratique culturelle minoritaire ne peut pas être respectée parce que les institutions sont marquées par des biais historiques, prenez les jours fériés dans un pays comme le nôtre, la moitié des jours fériés sont de tradition catholique. Et donc ça, c'est un biais historique qui fait que pour des personnes qui ne sont pas de confession catholique parce qu'elles appartiennent à des religions minoritaires, respecter une fête religieuse, parce que ça peut être un devoir sacré, c'est plus compliqué quand vous n'avez pas de jours fériés à ce moment-là et que vous devez demander l'autorisation à votre employeur de vous absenter. Au Canada, c'est un droit constitutionnel d'être autorisé à s'absenter pour célébrer cette fête. Donc là, alors certains qui critiquent ce genre d'accommodement disent que c'est un privilège que l'on accorderait à certaines minorités, alors qu'en fait, si on les comprend dans la logique des multiculturalistes qu'on appelle libéraux, hein, ceux qui défendent le multiculturalisme dans le cadre d'un libéralisme politique, pour eux, accorder ce type d'accommodement, c'est tout simplement une extension du principe d'égalité. Égalité qui, là, ne serait pas respectée parce que les minoritaires ne peuvent pas jouir de la possibilité d'avoir un jour férié pour célébrer une fête religieuse. Donc les accommodements, voilà, ça veut dire cette idée de... Ça renvoie, pardon, à cette idée d'accommoder la demande du minoritaire pour que les principes démocratiques soient respectés dans son cas parce que les institutions n'avaient pas... Les lois, les règlements n'avaient pas prévu le type de demande qu'il porte, mais il faut que ça reste raisonnable. Raisonnable, ça veut dire que ça doit rester respectueux des droits fondamentaux. Donc toute demande qui serait oppressive, discriminatoire sexuellement sera exclue. Et raisonnable aussi d'un point de vue matériel ou financier. Si jamais ça implique des coûts exorbitants, à ce moment-là, les personnes sont fondées à refuser l'accommodement.
Et précisément, c'est autour de ces questions-là que surgit au fond la question au fond de qu'est-ce que le féminisme peut faire des théories politiques multiculturelles dans le cas où la reconnaissance des droits culturels ou la reconnaissance des spécificités culturelles des groupes minoritaires s'accompagne par exemple de la justification des structures patriarcales, des structures d'oppression des femmes, etc. Et c'est la question que, au fond, c'est la question que tu poses, quoi. Comment, certes, le multiculturalisme permet de penser une place aux groupes minoritaires, mais comment faire en sorte que les minorités au sein de ces minorités ne soient pas opprimées, et en particulier les femmes. Et donc, tu reviens sur la critique du féminisme adressée par le féminisme libéral, par exemple celui de Suzanne Müller-Hawkins, au sujet, justement, des théories politiques multiculturelles. Alors, est-ce que tu pourrais préciser ce point?
Oui, alors, donc, Suzanne Müller-Hawkins est une philosophe américaine féministe que l'on qualifie de libérale parce qu'elle se situe dans le sillage du libéralisme politique de John Rawls, c'est-à-dire un féminisme qui s'inspire de cette procédure, de cette expérience de pensée mise en place par John Rawls pour identifier les principes de justice, la fameuse position originelle. Et Suzanne Mollard-Rockin dit que cette position originelle, elle a un potentiel féministe extraordinaire parce que justement, on va pouvoir, à partir de cette position, montrer à quel point il est illégitime de discriminer les personnes sur la base de leur sexe. Mais donc voilà, Suzanne Mollard-Rockin, elle s'est inspirée de cette procédure rawlsienne tout en essayant d'aller au-delà de Rawls, en montrant que Rawls n'avait pas suffisamment pris en considération la question des femmes dans sa théorie de la justice. Et en fait, elle adresse le même type de critique à un autre philosophe rawlsien, qui est Will Kimlicka, dont j'ai parlé tout à l'heure, celui qui propose justement d'utiliser aussi la position originelle de Rawls pour l'appliquer aux minorités ethniques en disant, sous voile d'ignorance, aucune personne n'accepterait, une fois que le voile d'ignorance est élevé, de se retrouver soumis à une forme d'assimilation culturelle, qu'on lui impose d'abandonner sa langue, ses traditions. Donc le voile d'ignorance, là encore une fois, a aussi un potentiel multiculturaliste extraordinaire, d'après Kimlicka. Mais Hawking lui dit, en fait, le problème, c'est que ces droits culturels que vous essayez de justifier depuis le point de vue rawlsien, dans le cas des femmes, ils posent problème. Parce qu'en fait, même si ce sont des droits culturels qu'un cadre rawlsien considère comme compatibles avec les principes de l'état de droit, de l'état du droit constitutionnel, c'est-à-dire il ne faut pas que ces droits culturels soient discriminants sexuellement. Pour Kimlicka, les droits culturels ne doivent pas permettre ce qu'il appelle, ne doivent pas cautionner des restrictions internes, c'est-à-dire ils ne doivent pas être mobilisés pour justifier qu'on restreigne les libertés des membres d'une minorité. Sauf que Suzanne Mollard-Rockin dit que dans le cas des femmes, c'est compliqué parce que la discrimination sexuelle, c'est pas quelque chose qui se joue uniquement à l'âge adulte, et notamment qui se joue dans la sphère publique, au sens où voilà, les droits culturels réclameraient publiquement des formes de discrimination sexuelle. Non, c'est quelque chose qui se joue dans la famille, au niveau de la sphère domestique, à l'abri du regard des pouvoirs publics, et qui passe par l'intériorisation sur le long terme, dès la plus jeune enfance, de rôles genrés qui, généralement, vont enfermer les femmes dans des contraintes qu'elles ne perçoivent même plus comme des contraintes parce qu'elles s'y conforment justement spontanément, et qui, au bout du compte, fait que pour elles, dans leur cas, la culture n'est pas un contexte de choix, parce que Kimlicka a cet argument selon lequel la culture, c'est ce contexte de choix qui nous permet d'exercer notre autonomie individuelle. Et Hawking dit, dans le cas des femmes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si vous encouragez par la rhétorique multiculturaliste la tolérance à l'égard de traditions, lorsqu'il s'agit de groupes minoritaires, par exemple de groupes issus de l'immigration dans lesquels ces traditions sont patriarcales et sont sexistes, même si dans la sphère publique, les groupes minoritaires ne réclameront pas des formes de discrimination sexuelle évidentes, il n'en demeurera pas moins que dans la sphère domestique, ils continueront d'encourager des normes patriarcales, des schémas sexistes. Donc, au bout du compte, voilà, pour Hawking, il y a quelque chose de dangereux dans l'idée de droit culturel, même quand cette idée est justifiée sur la base de principes libéraux, parce qu'au bout du compte, l'idée même de tolérer des traditions va léser les femmes issues de groupes minoritaires. Donc, elle prend des exemples qui ne sont pas des exemples qu'on trouve dans la théorie de Kimlicka, mais qu'elle essaye de mettre en avant pour montrer les risques induits. L'exemple de la défense culturelle, donc ça c'est quelque chose qui concerne le droit pénal américain, qu'on ne trouve pas dans le droit français, mais qui fait que des accusés, des hommes accusés de violence, à l'égard de leur conjointe, ont vu leur peine massivement allégée parce qu'ils avaient fait valoir une excuse culturelle, disant que par exemple ce jeune monk avait enlevé sa jeune fiancée et l'avait séquestrée chez lui puis violée, mais que ça faisait partie d'un rite nuptial du mariage par enlèvement. Ou alors cet immigré chinois avait tué sa femme donc quand il avait découvert qu'elle le trompait, parce que c'était une façon de laver son honneur, et que dans la culture chinoise, laver son honneur en cas d'adultère pour un époux, c'est indispensable. Donc ce genre d'exemples qui ont abouti donc à cause des excuses culturelles à des jugements beaucoup moins sévère, marque une forme de complaisance pour Hawking. Elle dit, derrière la tolérance multiculturelle, ce qui risque de se passer, c'est une forme de complaisance à l'égard du sexisme des minoritaires qui est extrêmement dommageable pour les femmes concernées. Mariage arrangé, autre exemple qu'elle prend, la polygamie, l'excision. Est-ce que derrière la tolérance culturelle, il n'y aurait pas le risque que ces pratiques, ces coutumes patriarcales soient, au bout du compte, même si ce n'est pas officiellement, implicitement encouragé et toléré?
Et malgré le caractère évidemment très convaincant de la critique d'Hawking, tu lui adresses toi-même un certain nombre de critiques et tu défends une autre voie. Alors, est-ce que tu pourrais rappeler, au fond, quelle est, pour quelles raisons tu privilégie la voie du féminisme multiculturel.
Alors, en fait, quand Hawking a porté son réquisitoire contre le multiculturalisme libéral, ce qui a gêné certaines féministes, c'est la façon dont elles présentaient la solution libérale qui devait s'imposer. C'est-à-dire, elles disaient, en fait, pour les femmes issues de groupes culturels plus traditionnels que la majorité, évidemment qu'elles ont plus intérêt à s'assimiler à la culture libérale et majoritaire de la majorité plutôt qu'à voir leur tradition culturelle être tolérée. Donc voilà, c'était cette conclusion assimilationniste qui a choqué nombre de féministes. Ou alors, Hawking disait aussi, ou alors leurs groupes doivent se conformer aux normes de la majorité, mais en gros, que ça concerne ces jeunes femmes ou que ça concerne le groupe, il y avait cette idée de se fondre dans la culture majoritaire parce qu'au bout du compte, les membres de ces groupes ont tout à y gagner. D'une certaine manière, l'idée sous-jacente, c'était que ces femmes ne peuvent s'émanciper pleinement qu'en s'occidentalisant, c'est-à-dire en se conformant à la culture du groupe majoritaire. Et donc ça, certaines féministes que l'on qualifie de manière peut-être un peu trop commode, mais de post-coloniale, ont montré que cette idée, cette conclusion assimilationniste reposait sur des stéréotypes post-coloniaux, notamment sur cette logique dual qui oppose le nous occidentaux au eux non occidentaux et qui reste empreint d'une mentalité évolutionniste selon laquelle les occidentaux auraient davantage évolué et auraient une avance morale en matière de féminisme à l'égard des minoritaires. Avec le problème du double standard, c'est-à-dire que Hawking, évidemment, lorsqu'elle parle de la culture majoritaire, va se référer au droit en disant oui, dans le droit, le droit démocratique, la discrimination sexuelle est interdite, mais si on sépare le droit et les pratiques sociales, les lois et les mœurs, on voit bien qu'au niveau des mœurs, c'est pas complètement sûr que la culture majoritaire ait complètement franchi le cap du patriarcat et qu'elle dispose réellement d'une avance morale en la matière. Voilà, alors que quand elle parle des cultures minoritaires, elle va renvoyer à la culture, avec ce culture avec un grand C, dont on ne sait pas exactement à quoi ça renvoie, parce que le terme de culture est éminemment polysémique, mais chez Hawking, ça renvoie manifestement à une acception anthropologique, qui s'inspire notamment, qui parfois confond un peu culture et religion, parce que quand elle essaye de montrer que les cultures sont quasiment toutes patriarcales, elle renvoie aux grands mythes religieux qui infériorisent les femmes. Elle renvoie aussi à des travaux anthropologiques comme ceux de Françoise Héritier, qui ont montré qu'il y avait quelque chose de quasi universel, effectivement, dans la valence différentielle des sexes, c'est-à-dire le fait que les systèmes de parenté avaient cette tendance à toujours inférioriser le pôle féminin par rapport au pôle masculin. Donc quand elle parle de culture, Hawking, c'est vraiment cette culture au sens anthropologique, mais elle en a une vision un petit peu assez homogène, assez essentialisée. On y reviendra sur cette question de l'essentialisme culturel qui est vraiment fondamental. Parce que ce que les féministes postcoloniales ont critiqué chez Hawking, c'est justement le fait que la culture, c'est toujours la culture des autres. Et cette culture des autres, c'est celle des non-occidentaux. Et c'est une culture simplifiée qui est perçue de façon décontextualisée, extrêmement anhistorique et qui, de ce fait, va conforter une sorte d'asymétrie, de rapport social inégal entre le groupe majoritaire occidental qui s'accorde cette avance morale et les groupes minoritaires qui sont en dessous. En renvoyant ces autres culturels à leur statut de groupe moins avancé, rétrograde, plus traditionnel, les féministes libérales comme Hawking, d'une certaine manière, participent à la disqualification sociale de ces groupes. Marginalisation et alors stigmatisation. Donc, au bout du compte, le féminisme libéral, même s'il est pétri de bonnes intentions, du fait qu'il n'est pas suffisamment critique des stéréotypes ou des préjugés ethnocentriques qui sont les siens, tend à verser dans une forme d'arrogance culturelle et de paternalisme aussi.
Oui, alors. Précisément, ça tient peut-être au fait aussi que justement, une tendance justement, comme tu le disais, ethnocentrique, et à considérer que, au fond, toute différence des groupes minoritaires est en elle-même, au fond, dévalorisée. Tu suggères, pour traiter ces questions-là avec davantage de justice et de justesse, je devrais dire aussi, distinguer des différences qui n'induisent aucun rapport oppressif, au fond, et de les distinguer de différences qui, elles, renvoient à des structures sociales oppressives au sein des groupes minoritaires. Et tu à mon sens, suggères aussi que les féministes devraient se limiter à critiquer cette catégorie. C'est-à-dire, au fond, encore une fois, des structures sociales au sein des groupes minoritaires que l'on peut considérer comme oppressives. Et c'est assez important, peut-être, de revenir là-dessus avant d'envisager la suite, parce que je pense que sans cette distinction, on ne comprend pas toute la série de propositions que tu fais dans la suite du livre.
Alors, je suis pas sûre de bien percevoir.
Tu considères que les féministes devraient se limiter à critiquer les groupes minoritaires au nom des structures éventuellement patriarcales ou oppressives qu'elles peuvent reproduire, plutôt que de critiquer toutes les différences parce qu'elles sont différentes, justement.
Oui, effectivement. Il est évidemment légitime de critiquer, d'un point de vue démocratique, il est légitime de critiquer tout ce qui encourage l'inégalité, la domination et l'oppression, et le patriarcat en fait partie. Mais ce qu'il est illégitime de faire, c'est d'essentialiser le patriarcat en considérant que c'est quelque chose qui concerne de manière prioritaire les autres culturels. Donc, ce qui pose problème, ce ne sont pas les cultures et la diversité des cultures. Ce qui pose problème, ce sont les pratiques oppressives patriarcales. Et ces pratiques oppressives patriarcales, elles peuvent circuler, en fait. Enfin, elles peuvent s'observer de part et d'autre des frontières entre les groupes culturels. Et donc, ce que le regard des féministes libérales ne permet pas de repérer quand il n'a pas critiqué les lunettes ethnocentriques qui sont les siennes, c'est justement qu'il n'est pas capable de voir cette circulation. Si je reviens sur le cas de la défense culturelle, ce qu'une féministe multiculturelle qui s'appelle Sarah Song et dont j'examine le travail dans le livre montre, c'est que dans ces procès où les féministes se sont indignées du fait que l'accusé qu'il y ait une indulgence à l'égard de l'accusé parce qu'il avait fait valoir une excuse culturelle, notamment dans le cas de cet immigré chinois qui avait tué sa femme, l'idée de l'honneur, Sarah Song fait valoir que la complaisance des juges à l'égard de cette pratique-là, de cette pratique patriarcale, n'a pas été motivée par le respect de la différence de la culture de cet immigré chinois, mais au contraire par l'écho de cette pratique avec quelque chose qui existe dans le droit américain. Puisque dans le droit américain, il y avait cette idée, notamment l'idée du crime passionnel, que lorsque une femme, lorsqu'un homme est pris de colère parce qu'il voit que sa femme l'a trompé, ce crime passionnel a longtemps été considéré comme une circonstance atténuante. Et même en amont de ça, il y avait cette idée dans le droit, dans la common law d'origine britannique, qui était dans le droit américain, que une femme était la propriété de son mari et que toute personne qui portait atteinte à cette propriété, qu'il y avait il était tout à fait légitime d'exprimer une colère et de défendre sa propriété ou violemment. Donc, ce que montre Sarah Song, c'est que dans le patriarcat, les normes patriarcales existent dans les différents groupes et que parfois, derrière ce qui nous semble être une tolérance multiculturelle, une tolérance de la différence, en fait, il y a une validation de la similitude. C'est-à-dire, c'est parce que le majoritaire reconnaît des schémas patriarcaux qui sont dans sa propre culture et qu'il les reconnaît dans la culture du minoritaire, qu'à ce moment-là, il va la juger acceptable et la tolérer. Et donc, comprendre ce mécanisme-là, qu'elle appelle un effet de congruence, quand les normes patriarcales des minoritaires et des majoritaires convergent, comprendre cet effet de congruence et le déconstruire, ça suppose justement de profiter de ce genre de cas juridique pour non pas s'indigner, comme le font les féministes, du patriarcat des minoritaires, mais comprendre qu'il y a un patriarcat à déconstruire de part et d'autre des frontières culturelles.
Mmh. Et précisément, alors du coup, sur cette base-là, au fond, critiquer le caractère ethnocentrique du jugement qui est porté sur les minorités culturelles et qui conduit à aller y chercher préférentiellement les structures d'oppression, alors qu'au fond elles sont assez partagées, y compris par la culture majoritaire. Tu te concentres au fond sur différentes pistes qu'offre le féminisme multiculturel pour définir quelle pourrait être justement une position féministe qui défende le droit des femmes, tout en intégrant les acquis des théories multiculturelles. Et donc la première voie que tu suggères est l'accommodement transformateur, et tu explores justement cette voie dans la première partie, ta deuxième partie, je dirais. Est-ce que tu pourrais y revenir à ce que tu appelles l'accommodement transformateur, et y compris aux limites que tu lui attribues.
Oui, alors cette voie de l'accommodement transformateur, c'est la plus exotique hein, au regard de notre droit français. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas vraiment répondu à ta question. Je fais peut-être juste un tout petit retour en arrière sur quand tu disais ces questions sont peu traitées en France. C'est important quand même, avant que je rentre dans le détail de ces analyses, que je dise un mot là-dessus, parce que oui, les enjeux multiculturels, de façon générale, sont maltraités en France dans la mesure où nous avons cette tradition républicaine jacobine qui maintient l'idée que la citoyenneté est unitaire, hein, que même si le mot assimilationniste a longtemps été disqualifié, bon là en ce moment il revient un peu à la mode, mais il y a quand même cette idée qui reste forte en France, selon laquelle la République est indivisible et que ça passe, le français est reconnu comme la langue de la République à l'article 2 de notre Constitution, et donc il y a quand même cette idée que pour être français il faut accepter une culture commune et que les minorités menacent cette culture commune, menacent cette indivisibilité républicaine. Et c'est pour ça qu'on a tout de suite cette accusation de communautarisme qui est généralement brandie. Donc le multiculturalisme est quelque chose qui est régulièrement critiqué d'un point de vue officiel. Notre président de la République a été le dernier en date à le dire publiquement, mais c'est quelque chose qu'on retrouverait dans la bouche d'autres personnages officiels. En 2017, dans un entretien avec la revue Causeur, Emmanuel Macron disait « La France n'a jamais été, ne sera jamais une nation multiculturelle ». Donc, ces questions-là ne sont pas débattues en France. Il n'y a pas de politique multiculturelle en France. Il n'y a pas de mesures d'accommodement, ou alors elles se font peut-être au niveau municipal de façon discrète, mais c'est pas une politique officielle. Donc, il n'y a pas de terrain pour une philosophe politique comme moi pour essayer d'examiner des politiques d'accommodement en France et voir si elles sont compatibles ou pas avec les principes féministes. Donc ça explique pourquoi j'ai fait ce détour par d'autres contextes théoriques, mais aussi d'autres contextes institutionnels, parce que les autrices que j'étudie dans le livre travaillent pour Ayelet Shakar, qui défend cette voie de l'accommodement transformateur. Elle a beaucoup travaillé sur le contexte israélien et sur la façon dont les tribunaux rabbiniques qui gèrent le droit familial en Israël s'articulent avec les principes de l'État démocratique qu'Israël. Anne Phillips est une Britannique qui a travaillé sur les problèmes des mariages arrangés forcés en Grande-Bretagne, ou les cas aussi de défense culturelle dans le contexte britannique. Et Sarah Song est une Américaine qui a beaucoup travaillé aussi du point de vue du droit américain. Donc ces autrices se situent dans un autre contexte juridique que le nôtre, dans des pays où des politiques multiculturelles, des politiques d'accommodement sont mises en œuvre. Donc ça explique aussi l'écart et les raisons pour lesquelles les exemples que discutent ces autrices peuvent parfois paraître un peu exotiques et un peu étranges. Donc Ayelet Shakar, dans le contexte qui est le sien, qui est celui de la société israélienne, elle a été amenée justement à s'interroger sur la façon dont les tensions entre groupes qui défendent des traditions assez peu recommandables pour les femmes et l'État moderne israélien qui défendait une forme de sécularisation, de démocratie sécularisée, elle a examiné ces tensions et ce qu'elle a observé, c'est que lorsque certains groupes commencent à revendiquer des traditions qui sont généralement assez oppressives pour les femmes, ils le font en réaction. Ils le font dans un processus qu'elle appelle le culturalisme réactif. C'est-à-dire, c'est une réaction à la pression de l'État moderne et séculier, à la pression à l'assimilation à des normes sécularisées. Et donc, c'est ce qui s'est passé en Israël avec un regain de l'orthodoxie juive très forte et qui s'est notamment traduit dans la gestion du droit familial par les tribunaux rabbiniques, par des formes de tensions qui étaient nuisibles aux femmes, notamment dans les moments de divorce, les femmes qui avaient beaucoup de mal à obtenir le divorce parce que elles étaient soumises à cette tradition de laguna, de la femme ancrée, qui faisait qu'une femme doit obtenir l'autorisation de son mari pour pouvoir divorcer. Et le regain de traditionnalisme qui a été observé en Israël a rendu cette procédure de divorce extrêmement compliquée et a enfermé les femmes dans des mariages dont elles ne voulaient plus. Et ce que Shakar montre, c'est que si on accentue la pression à l'assimilation à l'égard de ces groupes qui, eux, veulent préserver des formes de tradition, et ils le veulent notamment parce que, leur traditionnalisme va s'exercer tout particulièrement sur le cas des femmes, parce que les femmes, pour ces groupes, sont un peu les gardiennes de la tradition. Comme ce sont elles qui mettent les enfants au monde, qui les élèvent, ils ont la reproduction culturelle, l'appartenance au groupe est surdéterminée par le droit de la famille et par la façon dont la famille reproduit la culture du groupe. Et donc, Shakar montre que Le regain de traditionalisme va évidemment concerner au premier chef les femmes, et va évidemment, les demandes d'accommodement vont au premier chef concerner le droit de la famille, mais que si l'on accentue la pression de l'assimilation, les demandes d'accommodement pour des pratiques extrêmement traditionnalistes va s'accentuer aussi. Donc, plutôt que d'aggraver le problème du culturalisme réactif en augmentant la pression à l'assimilation, elle propose de faire une sorte de... elle propose une solution de type institutionnel qui mise sur la gouvernance conjointe, c'est-à-dire le partage du pouvoir juridictionnel, et qui essaye de faire une sorte de division du travail entre l'État et le groupe, afin de rassurer le groupe, de lui donner l'impression qu'il maîtrise les frontières de son groupe et qu'il maîtrise la question du statut, qui peut être membre du groupe, tout en donnant à l'État le moyen de protéger les femmes, de leur donner, notamment sur le plan économique, de donner aux femmes, au moment des divorces, davantage de pouvoir économique qu'elles n'en auraient eu si elles avaient été uniquement assujetties à la loi de la communauté religieuse. Donc voilà, par une espèce de partage du gâteau juridictionnel, essayer d'apaiser les craintes du groupe de disparaître, tout en donnant aux femmes des leviers, des moyens de pression intérieurs au sein de leur groupe pour impulser une forme de libéralisation endogène. Donc ça, c'est cette voie que propose Chakar, et qui, à mon avis, pose des limites. Alors évidemment, c'est un pluralisme juridique qui ne serait absolument pas applicable dans notre droit civil, hein, mais dans notre droit familial, mais qui pose problème au-delà de ça par le fait que, en gros, quand elle présente cet accommodement transformateur, avec l'idée donc que ça va transformer le groupe de l'intérieur, le libéraliser malgré lui, au bout du compte, c'est une sorte de piège institutionnel qui, comme tout piège, cherche à enfermer le groupe dans un processus qui va l'amener dans une direction dans laquelle il ne voulait pas aller. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que les groupes conservateurs accepteraient au départ le type de partage juridictionnel qu'elle propose, puisque c'est un piège, puisqu'il y a une téléologie avec l'idée qu'on va les libéraliser malgré eux, et pourquoi accepteraient-ils ce projet-là? Et l'autre limite, c'est aussi le fait qu'elle mise beaucoup sur l'initiative des femmes qui, à l'intérieur de ces minorités, sont censées impulser ce mouvement de libéralisation, sachant que, comme il s'agit de groupes extrêmement conservateurs, on peut douter que les femmes disposent des moyens matériels, psychologiques, d'impulser, parce qu'elles auront peut-être intériorisé ces schémas extrêmement patriarcaux qui font qu'elles ne s'autorisent pas à le faire. Donc peut-être que psychologiquement, ça n'est pas plausible. Et aussi, peut-être que sur le plan des principes, elles ne le voudront pas. Peut-être qu'elles assument la vision conservatrice des rapports entre hommes et femmes qui est portée par leur groupe, et peut-être qu'elles les endossent pleinement et qu'elles ne veulent pas, par principe, participer à cette libéralisation du groupe. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, c'est quand même une proposition qui est intéressante dans la mesure où elle sort de l'idée qu'il suffit d'être plus autoritaire, plus interventionniste pour, au bout du compte, assimiler. Parce que un interventionnisme politique ou une politique trop autoritaire risque d'être contre-productive en la matière et de menacer plus les femmes qu'elles ne les protégeraient.
Oui, et par ailleurs ce qui te permet d'ouvrir une seconde voie, il y a aussi une sorte d'essentialisation ou de finalement elle considère un peu la culture comme un bloc homogène, quoi, pour le dire de façon plus simple. Et ce qui ouvre une autre voie pour le féminisme multiculturel, c'est au fond la voie qui consiste à considérer les droits culturels comme des choix individuels et à réarticuler la question de la culture à l'agentivité des personnes et aussi à repenser du coup l'autonomie, etc. Enfin, il y a vraiment des enjeux assez profonds dans ce que tu appelles au fond un multiculturalisme sans culture, c'est-à-dire au fond l'enjeu multiculturel, c'est plutôt des enjeux de choix individuels. Plutôt que des enjeux de reconnaissance des groupes culturels. Alors, est-ce que tu pourrais revenir sur cette seconde voie, hein, de ce que tu appelles le multiculturalisme sans culture, pour essayer là aussi de montrer comment il offre une façon d'interpréter le féminisme multiculturel Et puis également, là aussi, tu as un certain nombre de critiques ou d'objections à faire qui permettront ensuite de comprendre pourquoi la dernière approche que tu suggères te semble être la plus convaincante.
Mmh. Oui, parce qu'effectivement, j'ai structuré la deuxième partie de ce livre dans laquelle j'essaye d'expliquer comment le féminisme peut-il être culturel en essayant de voir comment chacune de ces théoriciennes qui sont très connues dans les débats de philosophie politique contemporaine, elles sont peu lues en France, alors un peu plus par les collègues qui travaillent en sciences politiques qu'en philosophie politique, mais elles sont extrêmement connues dans les débats dans le monde académique anglophone. Et comme elles ne sont pas traduites, j'ai voulu vraiment prendre soin d'exposer leurs propositions. Et chacune suit des voies assez différentes. Donc la première que j'ai résumée à l'instant à propos d'Ayelet Shakar, c'est une voie vraiment qui mise sur l'institution, l'organisation, ce qu'on appelle le design institutionnel dans ces débats, et qui prend vraiment au sérieux la distance morale entre des groupes conservateurs, traditionnalistes, très communautaires et une majorité libérale, individualiste et beaucoup plus démocrate. Alors que Anne Phillips va suivre une autre voie. Elle va moins se centrer sur la question des institutions que sur celle des concepts, et notamment de ce concept de culture. Et elle va opérer une déconstruction de ce concept de culture qui va lui permettre justement de montrer qu'il n'y a peut-être pas tant d'écart que ça entre la majorité qui se pense libérale et moderne et les groupes minoritaires qui sont qualifiés de traditionnels et communautaires. Donc c'est une toute autre voie. Et cette expression paradoxale qu'elle utilise de multiculturalisme sans culture, c'est vraiment pour envoyer un concept bien particulier de culture qui est la culture essentialisée. Cette idée que la culture est essentialisée, elle l'emprunte justement à l'ensemble des critiques féministes postcoloniales qui ont montré comment, voilà, à l'issue de, enfin, comment les représentations collectives hérité de l'époque des empires européens, continuent en fait, sont très vivaces et continuent d'agir sur la représentation que les occidentaux se font des non-occidentaux. Et ce clivage entre occidental et non-occidental est lui-même hérité de la colonisation, avec cette idée que les non-occidentaux sont dans cette catégorie toute négative, qu'ils ne sont pas comme nous. Et donc ce clivage reste extrêmement fort, notamment dans les critiques féministes. Il est activé, ce clivage, par la focalisation des féministes sur certaines traditions que une féministe postcoloniale qui s'appelle Uma Narayan appelle les traditions, alors en anglais iconic traditions, les traditions iconiques, c'est-à-dire celles qui frappent le regard, qui sont tellement effrayantes, tellement impressionnantes, qui semblent tellement barbares que les féministes occidentales ne peuvent qu'être justement indignées et les dénoncer. Et donc, mais le problème, c'est que ces traditions-là sont très généralement critiquées de façon caricaturale, c'est-à-dire sans être comprises dans leur contexte d'émergence. Qui les pratique, comment elles sont pratiquées, est-ce que l'évolution historique, tous les paramètres qui permettent d'expliquer comment ces traditions sont éventuellement apparues. Et quand on regarde de près la façon dont certaines de ces traditions se mettent en place, ce dont on se rend compte, c'est que bien souvent, ces traditions sont inventées. Soit inventées par les Occidentaux qui vont projeter des fantasmes sur la situation, soit aussi inventées par les minoritaires qui vont se réapproprier cette vision des Occidentaux et qui peuvent en fait en tirer parti. Donc c'est oui, alors ces traditions, je ne les ai pas nommées, mais c'est évidemment la tradition de l'excision qui serait le problème de la femme africaine. Alors le sati, qui est une pseudo-tradition, qui n'est pas en fait une vraie tradition, mais indienne, qui consiste pour une femme indienne, une veuve indienne, à se jeter dans le bûcher funéraire de son mari en signe de dévotion. Et que les colons britanniques avaient trouvé absolument horrible et ils avaient cherché à en comprendre le sens. Et Uma Narayan, dans un magnifique chapitre où elle déconstruit l'invention de cette tradition, montre comment il y a eu une sorte de co-construction entre les colons britanniques qui ont voulu trouver dans cette pratique une tradition religieuse, alors que ce n'était pas une tradition religieuse, et puis les nationalistes qui cherchaient à critiquer les colonisateurs qui se sont réappropriés cette pseudo-tradition pour en faire un slogan nationaliste. Et dans tout ça, les femmes indiennes étaient prises au piège, en fait. Donc le problème des traditions iconiques, c'est qu'elles accentuent cette image de la culture des autres, ces autres culturels avec un grand A, qui seraient en gros des espaces, des blocs homogènes, comme tu le disais, des espaces où le temps s'est figé, où il n'y a plus de différence de lieu, et où on associe à ce moment-là la culture à une vision très simplifiée de la religion, comme un ensemble de dogmes et de pratiques qui s'imposent de manière déterminante aux individus. Et donc, quand Anne Phillips reprend ses analyses des féministes postcoloniales, ce qu'elle montre, c'est que l'essentialisme culturel pose problème. Alors, c'est un problème épistémologique, au sens où quand on essentialise la culture des autres, on les comprend mal. On ne sait pas exactement ce qu'est leur culture. Mais au-delà de ce problème de connaissance, de méconnaissance de la culture des autres, il y a un problème moral et politique, qui est qu'on disqualifie, en fait, la capacité de ces individus à agir librement. Pourquoi ? Parce que derrière l'essentialisme culturel, ce que montre Philippe, c'est qu'il y a du déterminisme. Essentialiser la culture des autres, c'est aussi considérer que les non-occidentaux sont déterminés par leur tradition, au sens où ils n'ont pas la capacité de choisir librement la façon de vivre ces traditions, soit pour les amender, les réviser, soit même pour les rejeter, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui marque une différence avec les sujets occidentaux, parce que les sujets occidentaux estiment qu'en fait, eux, ils ne sont pas déterminés par leur tradition. Alors, Anne Phillips a une jolie expression pour montrer cette asymétrie entre les sujets occidentaux et les sujets moraux non occidentaux. C'est que les premiers considèrent qu'ils ont des valeurs, tandis que nous avons des valeurs, tandis qu'eux, ils ont des traditions. C'est-à-dire qu'avoir des valeurs, c'est les choses qui guident notre existence éthique, qui font que nous dirigeons dans l'existence, alors que les autres auraient des traditions, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix, en fait, ils sont soumis à leurs traditions. Et donc derrière ça, le déterminisme qui se manifeste, c'est l'idée que les non-occidentaux seraient un peu comme, je reprends des expressions des féministes postcoloniales, comme des robots culturels qui seraient programmés à agir d'une certaine façon, qui n'auraient pas cette réflexivité critique dont seraient pourvus les sujets occidentaux. Et donc, derrière cette vision essentialiste et déterministe de la culture des autres, ce qui se joue, c'est une disqualification en fait de l'agentivité morale des non-occidentaux. Ils ne sont pas des sujets moraux comme nous, et donc ils ne peuvent pas vraiment choisir. Et comme ils ne peuvent pas vraiment choisir, sur le plan politique, ça se traduit par l'adoption de politiques assez autoritaires, de prohibition, d'interdiction, typiquement le hijab, le port du hijab. Considérer que les femmes qui portent un signe qui marque leur déférence à l'égard des hommes, le fait qu'elles doivent être soumises, pudiques, alors que les hommes n'ont pas spécialement à l'être, donc pour beaucoup de féministes, le hijab est un symbole religieux sexiste, considérer que ces femmes le font parce qu'elles sont soumises à cette vision traditionnelle de l'islam, leur refuser la liberté, considérer qu'elles ne sont pas libres de le faire, ça peut justifier l'adoption de lois où on va alors interdire le port du hijab, parce que à ce moment-là, la contrainte de la loi est censée venir neutraliser la contrainte de la culture. Puisque vous n'êtes pas vraiment libre de le faire, on va vous interdire de le faire, parce que comme ça, ça va se neutraliser automatiquement. Et donc, Anne Phillips dit, c'est extrêmement problématique, parce que certes, il y a des personnes, des femmes qui sont contrainte à se conformer à certaines traditions patriarcales, mais c'est pas le cas de toutes. Et donc une loi qui est surinclusive, c'est-à-dire qui va s'appliquer à toutes, considérer que toutes sont obligées, sont contraintes de le faire, c'est une loi qui en fait les infantilise, qui ne prend pas au sérieux le fait que, et puis surtout qui les opprime, parce que c'est une loi qui les empêche d'exercer notamment une liberté de choix religieuse ou culturelle. Et donc à ce titre, déconstruire la vision essentialisée de la culture, ça doit mener sur le plan politique à plus de tolérance, c'est-à-dire à accepter que là où on croit que les femmes non occidentales ne sont pas libres d'agir quand elles respectent certaines coutumes qui dérangent les occidentales parce qu'elles n'y sont pas habituées, en fait, et ben, plutôt que de croire ça, faire le pari qu'il y a une forme de liberté, une forme d'agentivité qui s'exprime dans ces pratiques, dans ces comportements-là, et accepter que l'égalité de genre est quelque chose qui est sujet à une variété d'interprétations culturelles, et que les féministes occidentales n'ont pas à s'arroger le monopole de l'interprétation légitime de ce qu'est la bonne égalité entre hommes et femmes, ce que c'est qu'être une femme libre. Voilà.
Et alors, précisément, finalement, j'ai l'impression que tout ça pointe justement vers une troisième voie. Alors, est-ce que tu opère quelques objections concernant justement cette voie du multiculturalisme sans culture, qui justifie la défense d'une troisième approche, qui est l'approche délibérative, et qui fait signe au fond vers la compréhension interculturelle, quoi. En tout cas, ce que Sarah Song, justement, dont tu as déjà parlé, appelle une interculturalité humble, parce qu'en effet, disons que l'enjeu, c'est aussi l'enjeu de la position dominante des Occidentaux dans le droit qui s'arroge à juger la culture des autres. Et au fond, tu repères une troisième façon de penser un féminisme interculturel dans une posture humble qui en passe par la délibération interculturelle et l'intercompréhension, au fond, et qui consiste aussi à en passer par le point de vue des femmes que les Occidentaux disent opprimées, avant même de les avoir interrogées et d'en avoir discuté avec elles. Alors, est-ce que tu pourrais justement préciser ce qu'est cette approche délibérative et est-ce qu'elle apporte, hein, comparativement aux deux autres voies que tu as défendues?
Oui, parce que c'est vrai que le multiculturalisme sans culture que prône Anne Phillips en revient à une lecture complètement individuelle des droits culturels, au sens où, pour elle, chaque individu doit pouvoir jouir de ses libertés fondamentales, liberté de conscience, liberté d'expression, liberté associative, de manière sensible culturellement. C'est-à-dire que ce sont des libertés individuelles qui vont être déclinées différemment selon les références culturelles des uns et des autres. Mais pour elle, c'est quelque chose que chacun doit apprécier de façon individuelle. En ce sens-là, elle se démarque de certaines partie des théories multiculturelles qui, elles, défendent les droits de groupe en disant que, notamment, alors ça a été beaucoup développé pour le cas de la langue, donc c'est vrai que ça concerne moins directement les groupes ethno-religieux, mais dans le cas de la langue, ce qu'a montré Wilm Kimnica, par exemple, c'est que pour défendre par exemple la langue française dans la province du Québec, il faut des droits collectifs, une forme de souveraineté linguistique qui fait que les Québécois peuvent décider collectivement, par exemple, de la langue qui sera employée dans les écoles, les tribunaux, etc. Et que ça, c'est pas uniquement un droit individuel à parler la langue dont on a envie quand on le veut. C'est quelque chose qui est beaucoup plus robuste. Donc Anne Phillips refuse d'aller jusque-là parce qu'elle considère que ça aboutirait justement à donner trop de pouvoir, les droits collectifs accordés au groupe en tant que groupe, donnerait trop de pouvoir, notamment aux élites de ces groupes, et réactiverait ce problème dont nous étions partis, celui des minorités dans la minorité. Si on accorde trop de pouvoir aux élites du groupe, ce seront les minorités à l'intérieur du groupe qui vont trinquer. Donc c'est pour ça qu'elle revient à cette lecture strictement individuelle des droits culturels, mais qui est, du point de vue des théories du multiculturalisme, une forme de façon d'éviter le problème, parce que pour beaucoup de groupes, des droits culturels, ça ne suffit pas. Parce que les droits culturels font que, dans les interactions individuelles, ce seront quand même les comportements majoritaires qui vont l'emporter et il y aura des phénomènes de marginalisation et de disparition des cultures minoritaires. Donc parfois, il faut plus que des droits individuels pour défendre une culture vulnérable. Et c'est pour ça que alors, la position de Chacard, de l'accommodement transformateur, d'une certaine manière, accordait trop de pouvoir au groupe, hein, en espérant que ça se passerait bien au bout du compte parce que les femmes finiraient par tirer leur épingle du jeu à l'intérieur de ces groupes, ce qui est un peu optimiste. Mais inversement, Anne Phillips n'en accorde pas suffisamment. Donc il s'agissait dans la dernière partie, dans la dernière voie, la voie que j'appelle délibérative, d'essayer de trouver une voie moyenne, sachant que cette voie délibérative, elle n'est carte pas complètement les deux précédentes. Quand j'ai structuré la présentation en trois voies, il ne s'agissait pas de les rendre exclusives les unes à l'égard des autres, mais plutôt de montrer comment chacune cherche à dépasser les défauts des précédentes sans complètement les oublier. Et donc la voie délibérative, c'est une voie qui prend au sérieux l'idée que parfois les groupes demandent des accommodements qui les concernent en tant que groupe, donc des formes de tolérance qui concernent le groupe en tant que tel, mais que cette demande d'accommodement, pour être évaluée, doit passer par une délibération. Ce que j'ai trouvé intéressant dans la voie délibérative, c'est qu'elle part de controverses culturelles, c'est-à-dire qu'elle cesse d'avoir une approche assez surplombante de ce que c'est que la culture, comment est-ce qu'on pense la culture des uns et des autres. Elle part de pratiques culturelles pour lesquelles on demande un accommodement et elle essaie d'examiner à partir de ce cas bien précis comment le débat s'organise. Et c'est en ayant une approche qui peut paraître assez étroite au départ, puisqu'on va se demander pourquoi tel groupe demande tel type d'accommodement sur telle pratique, pourquoi est-ce que la culture d'un groupe se restreindrait à cette pratique-là? Mais en fait, cette approche assez ciblée permet d'avoir, paradoxalement, un cadrage plus large, parce qu'en examinant les raisons que les uns et les autres invoquent à propos de la demande d'accommodement, on pourra distinguer les bonnes et les mauvaises raisons. Se rendre compte que parfois, majoritaires comme minoritaires invoquent la culture de façon extrêmement instrumentale et qui n'a pas de réelle base anthropologique ou ethnologique. Donc mais tout simplement pour défendre des intérêts à l'intérieur du groupe, notamment les intérêts des élites du groupe. Pour peut-être donner un exemple, Song revient sur un cas de débat dans une affaire américaine d'une réserve amérindienne dont une des membres, donc c'est l'affaire Santa Clara Pueblo versus Martinez, donc une membre de cette réserve, l'amérindienne Audrey Martinez, avait porté plainte contre sa communauté, qu'il avait exclue parce qu'elle avait épousé un membre extérieur à la communauté et qu'elle avait donc perdu son statut de membre de la réserve, son statut d'indienne, et ça affectait aussi le destin de sa fille Julia. Et donc, elle avait porté le cas en Cour suprême aux États-Unis en faisant valoir une discrimination sexuelle, le fait qu'elle n'avait pas été également protégée, c'était l'amendement 14 de la Constitution, que son exclusion de la réserve ne la protégeait pas. Et la Cour suprême avait refusé de juger son cas en disant que c'était du ressort de la communauté amérindienne et qu'elle ne voulait pas s'immiscer dans les règles d'appartenance. Et que si la communauté amérindienne décidait d'exclure une femme amérindienne qui épouse un étranger, alors que... j'avais oublié de le préciser, ça ne concernait pas les hommes de cette communauté qui, eux, n'étaient pas exclus s'ils épousaient une étrangère, la Cour suprême estimait qu'elle n'avait pas à statuer. Sarah Song, en examinant ce problème, cette question de est-ce qu'il est légitime que le Pueblo Santa Clara bénéficie d'un accommodement pour mettre en place des règles d'appartenance qui sont sexuellement discriminantes, elle montre que, en fait, ces règles d'appartenance ne sont pas du tout liées à des règles ancestrales qui seraient propres à la culture de ce pueblo, mais qu'elles ont été instituées assez récemment, au milieu du XXe siècle, à la demande de l'État fédéral américain, au moment où les réserves indiennes ont été mises en place par l'État fédéral américain, lequel voulait limiter le nombre de membres de ces réserves et donc avait demandé aux réserves, lorsqu'elles avaient établi leurs règles d'appartenance, d'avoir des règles restrictives. Et à ce moment-là, la communauté amérindienne s'était calée sur le droit américain, lequel, à la même époque, destituait de son statut d'américaine une femme qui épousait un étranger. Donc, au bout du compte, le caractère sexiste de la règle d'appartenance de ce pueblo n'était que le décalque du caractère sexiste du droit national, de la droit de nationalité américain. Et donc, s'intéresser in situ, au bout du compte, ça veut dire que les élites masculines de la communauté, quand elles faisaient valoir cet argument culturel pour dire « laissez-nous gérer nos affaires comme nous le voulons et si nous avons envie d'exclure cette femme, nous avons le droit de le faire », c'était au bout du compte maquiller en argument culturaliste quelque chose qui servait les intérêts du groupe des hommes dans cette communauté. Donc, ce type d'enquête permet de repérer d'où vient une règle, enfin d'où vient une pratique culturelle. Est-ce qu'elle a véritablement une assise sociale au sein du groupe, une forme de validation communautaire? Est-ce qu'elle a une histoire? Est-ce qu'elle a une authenticité? Ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas le cas? Est-ce qu'elle maquille des intérêts qui seraient d'un autre ordre, économique, politique? Et donc, ça peut fonctionner dans ce sens-là, mais ça peut aussi fonctionner dans l'autre sens où l'on se rend compte que la règle culturelle. Enfin, la pratique culturelle pour laquelle on demande un accommodement a véritablement une valeur et mérite d'être protégée. Donc, la délibération va permettre de clarifier les choses dans les rapports entre groupes, parce que, comme on l'a vu depuis le début, il y a à la fois à essayer de prendre en considération les inégalités entre la majorité culturelle et les minorités culturelles, donc ce sont les rapports interculturels, mais il faut aussi prendre en considération les rapports de force qui se jouent au sein des minorités, donc les rapports intraculturels. Et l'enquête délibérative permet justement de démêler cet écheveau et d'essayer de comprendre au sein des relations qui nouent les rapports entre majoritaires et minoritaires, ce qui est de la culture dotée d'une certaine valeur et ce qui, au contraire, est du simple rapport de force. Donc la voie délibérative, en ce sens-là, présente cet immense mérite de tenir compte de ce qui avait été montré auparavant, à savoir qu'il faut déconstruire les stéréotypes postcoloniaux, qu'il faut cesser d'essentialiser la culture des autres, qu'il faut justement réintroduire la complexité des rapports inter- et intraculturels, et à partir de là, essayer d'identifier ce qui mérite d'être respecté.
Merci beaucoup. On peut conclure sur la valeur heuristique de la délibération. Merci infiniment, merci. Sophie, merci pour cette présentation. Merci.